Vous écoutez Infusion Positive, un podcast où Estelle et Catherine diffusent des clés sur le bien-être et le bonheur. Bonne écoute! Bonjour Estelle!
Bonjour Catherine!
Bienvenue à vous pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler des pensées, comment mes pensées créent ma réalité et comment ça influence ensuite mon comportement. Donc on va vraiment vous inviter à voyager au cœur de vos pensées, de mettre de la conscience sur tiens à quoi je pense régulièrement, mes pensées automatiques, parce qu'on est traversé par des milliers de pensées chaque jour. Là, pendant que vous êtes en train de nous écouter, c'est fort probable qu'il y a d'autres pensées qui viennent à votre esprit, peut-être des préoccupations du futur ou des préoccupations à court terme, et puis qu'est-ce que je vais faire tiens en arrivant au travail, oh puis est-ce que Jeannette elle a terminé son dossier, et puis qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter là en fait, pourquoi elle parle de tout ça, ah et puis tiens, il faudra que j'organise la fête de départ de Brigitte. Et mince, j'ai oublié de souhaiter un bon anniversaire à Estelle.
Et j'ai raté la sortie d'autoroute au final.
Et voilà. Donc toutes ces pensées, en fait, c'est des milliers et des milliers de pensées qui nous traversent. On a des pensées qui peuvent être de type anxieuse, des pensées qui peuvent être de la rumination, des pensées de joie, des pensées de bonheur. Il y a plein de choses qui nous traversent. Et toutes ces pensées, ensuite, elles vont générer des émotions. Et ensuite, ces émotions, elles vont nous amener à avoir un comportement qu'on va adapter.
Donc on voit que ça peut être un cercle vertueux ou malheureusement aussi un cercle vicieux quand on commence à avoir une pensée négative qui vient peut-être même d'une croyance limitante plus profonde, hein, que j'ai toujours eu la conviction depuis toujours que je suis, que je suis nulle en maths, que je suis pas intéressant, que je ne sais pas attraper une balle, que je suis trop ceci, trop cela. J'ai une croyance qui est ancrée comme ça depuis toujours et c'est déjà en train de m'influencer dans l'instant présent, de dire bah, si je me dis j'ai jamais su rattraper une balle, là on me propose de jouer au volleyball, je dis non évidemment je vais être tellement nulle, donc ma pensée me dit je vais être nulle, mon émotion est peut-être déjà de la honte ou de l'anxiété et du coup mon comportement je vais dire non merci, je vais plutôt aller de côté et je fuis la situation et ça va s'envenimer et se maintenir comme ça, vraiment le cercle vicieux. Donc l'idée ça va être de travailler sur un cercle vertueux. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait?
Ça, je voulais rebondir, tu sais, sur cette histoire dans le livre de Paul Vaslavik, c'est un auteur qui parle d'ailleurs de nos pensées qui créent nos réalités. C'est un livre c'est créer ton propre malheur. Donc, parce qu'évidemment que nous, dans l'épisode, on a envie plutôt que vous pensiez contribuer à votre bien-être plutôt qu'à votre malheur. Et cette petite histoire que je vais vous raconter, je la trouve tellement drôle. C'est l'histoire d'un gars qui est chez lui un dimanche, il a acheté un beau tableau et puis il doit le fixer sur son mur. Mais voilà, qu'il n'a pas de marteau. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, je vais vite aller emprunter un marteau chez mon voisin d'en face. Mais entre le moment où il se dit ça et le moment où il traverse la route, il commence à penser à plein de choses. Il se dit, par rapport à ses croyances, mon voisin, il va se dire que je le dérange. En plus, c'est dimanche, comment il peut venir me déranger? Et puis comment ça se fait qu'il n'a pas de marteau? Il va me juger. Et puis, en plus de ça, ça ne se fait pas de taper des clous un dimanche. Et puis, donc, il se fait son film, là, dans sa rumination, etc. Et au moment où le voisin ouvre la porte, quand il sonne, il lui dit bonjour, et le gars lui répond « Tu peux te le garder, ton marteau !» Donc, vraiment, cette cascade, en fait, parce que son émotion, ça a été ensuite de la colère, et puis, le comportement qui va découler de ça, ça va être de l'envoyer bouler. Et je trouve que ça illustre tellement la puissance de nos pensées sur nos émotions, puis sur nos comportements et sur ces croyances qu'on se construit. Est-ce que peut-être tu peux nous raconter comment ces croyances, elles se construisent et puis surtout, comment est-ce qu'on peut changer ces schémas qui sont répétitifs?
Alors, les croyances limitantes et ces schémas, justement, sont plutôt définis très tôt dans l'enfance, selon l'éducation, selon des situations qu'on a pu vivre. Donc, si par exemple, je vis plusieurs fois un échec en maths quand je suis petit, peut-être que j'ai tout de suite une croyance qui me dit « je suis nul en maths ». Peut-être même qu'on me l'a dit, peut-être qu'un prof me le dit, peut-être qu'un copain me dit « Ah, t'es nul en maths, t'as pas fait une bonne note ». Peut-être que mes parents, sans vouloir me blesser ou volontairement, me le disent. Et du coup, ça devient une croyance qui me définit. Je suis convaincue que je suis nulle en maths. Pourtant, je me suis basée sur quoi? Sur deux notes. en étant petit. Donc c'est comme quelque chose comme ça qui se définit très tôt, mais qui peut avoir une incidence énorme. Là, je donne un exemple assez bateau et qui peut ne pas avoir d'incidence du tout, mais je peux partir de « je suis nul en maths » à « je suis nul tout court »,« je ne vaux rien », »,« je suis un moins que rien », »,« je ne réussirai jamais dans ma vie ». Et tout ça peut tellement influencer la façon dont je vais me développer, m'ouvrir au monde. Si je suis convaincue que je ne vaux rien, que je suis nulle, je vais plutôt être renfermée, pas ouverte aux opportunités, à expérimenter, parce que je n'y crois même pas. Donc souvent, ça se définit très tôt, à nouveau, soit par l'éducation, soit l'environnement de l'école, des petits copains, mais ça peut être aussi suite à des événements particuliers, que ce soit traumatique ou pas, ou des échecs dans des domaines. Et ensuite, c'est vraiment uniquement nos pensées. C'est que cette petite voix interne, dont on n'est pas toujours conscient, qui va raconter tout un petit discours. Et quand elle est magnifique, positive, vertueuse, ben ça nous porte et ça nous donne plein d'élan et de confiance. Mais quand elle est comme ça, négative, jugeante, autocritique, à dire tout le temps « t'es pas capable, regarde t'es nul, regarde ce que tu fais, tatatatata », ben ça me met dans un inconfort et des émotions négatives qui vont être associées.
Est-ce que c'est aussi en lien avec ce biais de confirmation? Parce que si je me dis que je suis nulle, que je n'y arriverai pas, toutes les petites situations qui vont arriver dans la vie vont confirmer « eh ben tu vois,
j'avais raison ». Par contre, le biais de confirmation est magique, c'est que toutes les fois où j'ai réussi, je vais pas du tout les relever. J'ai décidé que j'étais nulle, donc si une fois j'y arrive, je dirais « oui mais bon, il était tellement facile l'examen, c'est pas grâce à moi, ils ont été trop gentils ». Donc c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, où on a des biais d'interprétation comme ça qui vont nous biaiser notre façon de percevoir le monde. Parce donc je peux maximiser des échecs et minimiser des réussites parce que j'ai ce biais-là.
Parce que les pensées, ce sont que des interprétations.
Exact.
C'est rien d'autre que ça. Il y a rien de,
de factuel.
De factuel. Ouais. C'est comment j'interprète ma situation en fonction de l'éducation peut-être que j'ai reçue ou des situations que j'ai déjà pu vivre.
Exact. Et c'est par là qu'on va commencer en thérapie à travailler, c'est de se questionner. Moi, j'aime bien dire, on va mettre la casquette d'enquêteur, je dis ça à mes patients, et dire, mais on va aller voir, quelle est la preuve de ce que vous me dites? Elles sont où les preuves? Moi, je suis enquêteur, je veux les preuves. Elle est où la preuve factuelle de ce que vous avancez? Et puis, on va essayer d'un peu challenger comme ça ces pensées qui sont souvent très résistantes, robustes, qui ont été façonnées pendant de nombreuses années. Mais on va essayer de les challenger en essayant vraiment de fournir des preuves de la véracité ou non de ces pensées. Puis après, on va commencer à essayer de les moduler, de les travailler. Moi, j'aime bien dire, c'est comme dans les BD, tu sais, où on voit le petit ange, le petit diable au-dessus de la tête. Et là, c'est le petit diablotin, qui va dire « t'es nul, regarde, t'y arrives pas, t'y arriveras jamais, t'as senti qu'un bon à rien ». Bon, là, il est un peu dur, mais c'est ce qu'on peut entendre parfois dans certaines têtes. Et on va essayer de faire travailler le petit ange et dire « qu'est-ce que je pourrais me dire d'autre à la place ? Comment est-ce que je pourrais être plus doux envers moi-même ?» Activer de l'autocompassion, de l'autobienveillance. Mais ça ne marche pas comme ça, il ne suffit pas de se dire « Allez, je vais me dire que je suis bon et ça va aller, je suis bon, je suis le meilleur et tout va bien se passer. » Non, ce n'est pas aussi simple, la méthode collée comme ça, de se dire une phrase magique, ce n'est pas aussi puissant.
Ça va être aussi de venir observer concrètement, justement d'utiliser ce biais de confirmation pour finalement se calibrer, à se dire « chaque fois que maintenant j'observe, que j'y arrive, et je le valide, je m'auto-valide. Ah ben là, je l'ai réussi. »
Et je le notifie.
Et je le notifie.
Ouais, j'en prends conscience. Et je ne m'autorise plus à dire c'est parce que c'était trop facile. Ou... Non, je reconnais mes compétences et mes forces. Donc ça va être petit à petit déjà d'observer, de prendre conscience de ses pensées. Souvent, on n'est pas conscient qu'il y a cette petite voix à l'intérieur, mais elle est tout le temps là. Donc vraiment déjà d'en prendre conscience. Et ensuite, d'essayer de tester justement en se questionnant quelles sont les preuves et comment est-ce qu'on pourrait... se dire autrement les choses en faisant appel à une voix plus douce, plus bienveillante. Moi, j'aime bien dire, est-ce que vous diriez ça à votre meilleure amie? Là, tout ce que vous venez de vous dire sur vous-même, vous oseriez dire ça à quelqu'un de proche? Que dirait votre meilleure amie dans cette situation? Il vous dirait quoi? Alors, essayez de faire venir cette petite voix, ou meilleure amie, ou quelqu'un de bienveillant autour de vous. De vraiment prendre conscience, mais en fait, je me parle si durement. Comment je peux être si dure avec moi alors que je ne serai jamais avec des proches?
Puis ensuite, quand on choisit de transformer ses pensées et d'avoir un discours plus bienveillant envers soi, par exemple, eh bien, moi j'aime bien aussi parler de cette loi de l'attraction. On se dit « Ah, mais c'est magique, c'est incroyable !» C'est simplement en fait qu'à ce moment-là, on a décidé de mettre de l'attention sur autre chose, des choses qui viennent confirmer qu'effectivement, eh bien, j'ai les compétences ou je suis capable. Et tout à coup, ces choses arrivent. Ça, je raconte souvent ça quand on veut s'acheter une nouvelle voiture. Tiens, c'est marrant, on la voit partout. C'est juste que c'est pas qu'elle est plus présente qu'avant, c'est simplement que mon champ d'attention, et eh bien maintenant il voit tout, partout cette voiture. Mm-hmm. Et c'est la même chose en fait, si je choisis de penser les choses différemment et puis d'avoir un autre discours, et eh bien en fait petit à petit mon cerveau il va préparer d'autres traces et une autre attention pour me confirmer que ces choses, elles sont présentes.
Mmh, tout à fait.
En tout cas, les neurosciences, elles démontrent qu'il y a vraiment une plasticité cérébrale qui montre que nos pensées, elles pourraient modifier la structure et le fonctionnement de notre cerveau. Et on pourrait donc recalibrer ces pensées en créant comme des nouvelles traces. Et puis par la répétition, pas par le fait de se dire 15 fois « je suis forte », c'est pas ça, mais par le fait de réfléchir différemment à une situation quand elle se produit, d'analyser les choses de manière, comme tu le disais, factuellement, « mais qu'est-ce qui me prouve que ça ? Ah ben oui, ben non, etc. » D'avoir du discernement dans ses pensées, eh bien ça va amener à notre cerveau une autre manière de réfléchir et de penser, en fait. Et à travers toute la répétition également des expériences qu'on va vivre, mais de mettre de la conscience sur les expériences qu'on vit. Et c'est vrai que je peux penser à comment je pouvais penser quand j'avais 20 ans et aujourd'hui avec tout le travail de développement personnel, les formations, les expériences. Et bien évidemment, et heureusement, on évolue. Mmh. J'aime pas dire qu'on change, mais heureusement, on peut évoluer. Et puis, on peut passer de ce gars qui n'ose pas aller demander de l'aide parce qu'il s'imagine qu'il va déranger à oser, en fait, même aller rencontrer, voir son voisin comme un partenaire interdépendant dans notre vie. Donc, c'est vraiment comment je me prends conscience et comment je transforme finalement ces pensées pour qu'elles soient à mon service.
Magnifique, donc c'est vraiment les clés qu'on peut donner aujourd'hui à nos auditeurs, donc ce que tu viens de nommer, de prendre conscience et pour ça peut-être de régulièrement écouter un peu cette voix interne, d'oser faire des temps d'arrêt, peut-être un temps méditatif ou un temps où vous êtes seul avec vous-même, parfois certains aiment écrire le flux de leurs pensées, mais d'avoir vraiment cette conscience de quelle est la pensée qui peut être à mon service et qui facilite finalement l'ouverture à l'autre, à des opportunités, et qui m'ouvre finalement le champ des possibles plutôt que de me fermer. Merci beaucoup Catherine pour tous ces apports et pour cet épisode, et merci à vous de nous avoir écoutés.
Merci Estelle.
Bonne infusion.
Et si ces épisodes vous plaisent et que vous souhaitez approfondir des thématiques que nous abordons dans nos podcasts, nous organisons régulièrement des workshops.
Et nous pouvons également en organiser sur mesure. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail suivante info@ineza.ch. On aura le plaisir de répondre à vos demandes.